Dans le thème que le cinéma m'a accueilli, c'est comment surmonter les épreuves et les tentations. Comment surmonter les épreuves et les tentations? Prions. Seigneur, Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Que tout se passe dans ta volonté. Que tu mettes tes paroles dans ma bouche. Que tu touches le cœur, Seigneur, tes enfants. Que tout ce qu'il veut dire, Seigneur, que c'est toi qui m'inspire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ok. Comment surmonter les tests, les tentations, bien-aimés? Oui, nous savons que nous vivons dans un monde où, en fait, qui était pris captif par le prince de l'air, par Satan. Dans le système de ce monde, c'est l'ennemi qui est derrière. Et ça, c'est depuis Adam et Ève. Et donc, quand on veut manifester notre destinée, de plus en plus qu'on veut manifester notre destinée, parce que nous sommes appelés. En fait, nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Et nous sommes venus sur la terre, nous sommes appelés des conquérants pour conquérir le royaume parce que maintenant Jésus-Christ, il a rétabli cela. La bénédiction qui était à Abraham de partir conquérir, subdue. Maintenant, on entre dans cette bénédiction en Jésus-Christ, nous sommes venus pour conquérir. Et de plus en plus qu'on avance dans cette destinée, de plus en plus qu'on commence à relâcher le royaume de Dieu, de plus en plus que notre étoile brille, le remarquer que la pression commence à monter. Il y a plus de difficultés, que ce soit les bénédictions aussi dans notre vie commencent à augmenter. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la famille, que ce soit plus d'argent, plus d'influence. Donc il y a ces bénédictions qui suivent, comme la Bible dit, premièrement d'abord, qu'on suit le royaume de Dieu, les choses, les autres choses vont suivre. Donc il y a ces bénédictions qui vont nous suivre, et cela va aussi appeler beaucoup de pression, c'est-à-dire qu'il y aura des tests, il y aura des tentations. Et comme tes niveaux de tentation augmentent, comme tes niveaux de tests augmentent. Et c'est pour ça que souvent, à cause de cela, il y a certaines personnes qui prient le Seigneur pour que le Seigneur les amène dans une dimension plus élevée, mais parce que cette personne n'a pas encore été équipée, cette personne n'a pas encore été préparée. Pour ces tests, pour ces tentations, le Seigneur dit, attends un peu. Il y a ce processus de préparation. Mais quand on va arriver à ce niveau, les difficultés sont aussi plus différentes. Le Seigneur veut nous équiper à résister aux tentations, veut nous équiper à être victorieux dans les tests qui seront devant nous. Là, on peut voir cela dans notre monde physique. Vous voyez, il y a plusieurs sortes d'oiseaux. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux. Il y a des certains oiseaux en fait qui sont bien confortables sur la terre. Donc, ces oiseaux ont des ailes, mais ils préfèrent rester dans leur domaine, dans leur environnement où ils sont les plus confortables. Comprends peut-être le cas de la poule. Donc, si elle vole, c'est le maximum aux environs de 3 mètres. Elle ne peut pas aller plus en latitude. Parce que de plus en plus qu'on va en latitude, de plus en plus les vents sont forts, les vents sont violents, il y a un nouveau niveau de pression. Même au niveau du système respiratoire, il y a plus de pression à ce niveau. Et si on change un peu le niveau, on va avec les canards. Les canards aussi, ce sont des oiseaux. Surtout les canards qui font des migrations, qui migrent. Et le maximum qu'ils peuvent voler, c'est 1200 mètres. Dans 1200 mètres, là, le maximum, l'altitude qu'ils peuvent aller, c'est 1200 mètres. Donc, c'est là qu'ils sont confortables. Si on met un poulet à 1200 mètres, il va s'écrouler. Ça sera difficile. Mais voler constamment, c'est presque impossible. Parce que son système respiratoire n'a pas été équipé pour cela. Ces ailes ne sont pas équipées pour naviguer dans le vent. Donc, c'est un niveau supérieur. On va encore aller un niveau en haut. Si on parle maintenant des cordons des ânes. Le cordon, lui, c'est 4500 mètres. Donc, 4,5 km d'altitude, vous imaginez. 4,5 km d'altitude. Et là aussi, il y a un autre niveau de pression au niveau de la respiration. Et un canard, pour arriver là-bas, ça sera difficile. Ça, c'est le vent qui se trouve là-bas, la pression, c'est difficile. Tout ça, ce sont des niveaux. Imaginez si on prend une poule, on met à 4500 mètres en du vol. Mais elle va s'écrouler. Et souvent, on a un niveau, on demande au père, je veux aller à ce niveau-là, je veux aller à ce niveau maintenant. Donc, on peut être au niveau poulet. On dit au père, on va aller au niveau condor. Mais quand on voit ça spirituellement, quand le père voit ça spirituellement, mais il faut une préparation. Il faut une préparation. Il faut s'équiper contre les vents qui vont venir. Il faut s'équiper contre la pression qui va venir. Il y a l'oiseau, c'est l'oiseau maintenant qui vole à la plus grande altitude. Là, c'est le vautour fauve de Ruppel. Le vautour. Là, c'est 11 300 mètres. Donc, lui, il vaut 11 300 mètres d'altitude. 11 000 kilomètres. Waouh! Et ses ailes, cette largeur, c'est 3 mètres. Donc, quand il tend ses ailes, il peut naviguer à une vitesse rapide. Et surmonter ses vents, aller en altitude. Et là-bas, la présence de l'oxygène est moins. Donc, de plus en plus que l'altitude augmente, de plus en plus que c'est difficile, la présence de l'oxygène a diminué. Donc, il y a certaines choses, les canards qui appelaient à voler à 1 km, sont les mêmes à 11 000 km. Ça sera difficile, peut-être impossible. Donc, ça, c'est juste pour montrer, même dans le monde physique, il y a certains niveaux. Avec ces oiseaux à chaque niveau, il faut une adaptation spécifique. Il faut des ailes, il faut un système respiratoire adapté, il faut aussi une adaptation à la pression. Donc on ne peut pas juste dire que le niveau poulet, on va aller directement sauter au niveau condor. Mais Dieu s'est dit, mais si vous mettez là-bas, ça sera des dégâts. Les ailes ne sont pas adaptées. Le système respiratoire n'est pas adapté. Mais la vision, souvent, n'est pas adaptée. Donc, avant d'aller au niveau supérieur, avant d'aller à la prochaine étape, il y a un niveau de test. Et il faut aussi en profiter pour amener les tentations. Et le Père, le Seigneur veut nous préparer à cela. Donc, il y a un processus. C'est pour ça qu'il faut t'équiper. Comment faire face à ces tests? Comment faire face à ces tentations? Donc, c'est contre la victoire face à ces tests. C'est comment surmonter ces tentations que là, maintenant, les portes au niveau supérieur vont s'ouvrir. Donc, souvent, on est vraiment bloqué à un niveau. Peut-être c'est parce qu'on ignore les tests. On tombe toujours dans les mêmes tentations. Et c'est difficile. C'est difficile. Le Seigneur nous aime tellement, il ne peut pas nous mettre dans un endroit où ça... Quand les choses vont être amplifiées, quand on va plus zoomer, ça sera plus des dégâts. Donc là, maintenant, il n'y a pas trop de zoom, il n'y a pas trop de pression, il n'y a pas trop. Les choses peuvent être OK. Donc souvent, il faut se préparer pour aller à un niveau. Vous voyez, même qu'une personne aux États-Unis, mais dans d'autres pays, qu'un président, un candidat veut se préparer pour la présidente. Avant qu'il mette sa candidature, on ne le dérange même pas. Il n'a pas de problème. Mais quand il décide de se présenter, qu'il veut aller à un niveau supérieur, mais il s'est préparé. Il a tout nettoyer, là, nettoyer tout ce qui s'est passé, c'est pas public, tout nettoyer, parce qu'il sait qu'il sera sous le microscope. On va chercher, parce qu'il sera élevé, là, sa lumière va briller, et tous les yeux seront fixés sur lui. C'est de même avec les enfants de Dieu, sur le plan spirituel. Quand vous grandissez à niveau, votre lumière commence à s'élever. Vous attirez l'attention dans le plan spirituel. Il y a plus de puissance de choses qui se passent spirituellement. Et il y a une préparation pour cela. Et lisons Luc 22, verset 33-34, dit ceci. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Ça, si vous connaissez bien cette histoire où Pierre dit à Jésus-Christ que si ça va même jusqu'à la mort, il ne pourra pas régner Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit, en fait, tu vas me régner trois fois. Il donne même aussi les circonstances. Et si on lit ça dans Marc 14, ça relate un peu de notre manière. Bonne fois à 31, ça dit ceci. Pierre lui dit, quand tout serait scandalisé, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me régneras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te le régnerai pas. Et tous disent la même chose. Si vous regardez bien, ici Pierre manque encore plus en profondeur. Il dit que si les autres, quand tout serait scandalisé, donc quand les autres sont scandalisés, que pour lui, qui ne peut pas être scandalisé. Au verset 31, qu'il a encore dit, mais ça plus fortement. Donc il ne ferait que les autres peuvent tomber, mais lui ne veut pas tomber. Donc si on est en train de voir Pierre qui va être face à un test, qui va être face à une tentation. Et avant que ça n'arrive, là, c'est juste un peu le background. Jusqu'à ce qu'il est en train de lui dire qu'il va tomber. Mais s'il est confiant, si on souligne bien ici les disciples et Pierre, ils ont cette confiance en eux. Et souvent, notre confiance peut nous donner l'illusion que nous sommes prêts face aux tests et aux tentations. Ok. Souvent, notre confiance en soi, le fait qu'on soit sûr, le fait qu'on a l'assurance, ça peut nous donner une illusion qu'on fasse face aux tests qui sont devant nous, aux tentations qui sont devant nous, qu'on est prêt. Pourtant, le test ne dépend pas juste de la confiance. Donc, votre confiance n'est pas une garantie nécessaire pour passer le test. Votre confiance peut être à 1000%, mais ça ne garantit pas que vous passez le test. Prenez l'exemple d'un examen. Si vous n'avez pas étudié, même si votre confiance c'est 10 000, vous n'allez pas passer l'examen. Si vous n'avez pas appris à conduire, vous n'avez jamais conduit, vous partez prendre un examen de conduite, même si vous êtes confiant, vous avez vu ça à la télé 10 000 fois, vous allez encore reprendre notre test, notre schedule, vous pouvez les refaire. C'est vrai que la confiance est importante, mais ce n'est pas ça qui détermine que vous êtes prêt. Donc peut-être que vous êtes face à une situation où vous dites que dans cette situation, c'est face à cette situation, que ce soit le vol, que ce soit le mensonge, les situations bien précises, là, je ne peux pas tomber. Là, c'est impossible. Peut-être que vous avez aussi des scénarios, comme Pierre ici a vu les scénarios, que même si les gens sont scandalisés, ils ne vont pas être scandalisés. Souvent, beaucoup opèrent sur le plan statique. Quand on a un scénario en tête et qu'on rend ce scénario à nous, on passe ce scénario à nous, on se dit qu'en fait, si c'est ce scénario-ci, ça c'est impossible. Ça c'est sur le plan statique. Quand Pierre, il opérait sur le plan statique. Donc ça peut être dans plus de mots dans notre vie. Lisons Luc 22, 39. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dit Jésus, frappera-nous de l'épée. Ça, c'est quand maintenant Judas est venu avec l'armée, avec les soldats pour arrêter Jésus-Christ. Il était en face de Jésus-Christ et les disciples. Et maintenant, les disciples demandent à Jésus-Christ s'ils vont le frapper de l'épée. Lisons le verset 50. Et l'un d'eux frappait le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Donc, ici, ils étaient prêts. Ici, ils ont démontré qu'ils sont prêts à bagarrer. Ils sont prêts à être avec Jésus-Christ. Donc, s'il y a la bagarre, si la bagarre se lève, ils sont prêts à tomber. Très bien. Très bien. Ici, là. Donc, les confiances en eux, ils ont pu démontrer là. Ils ont pu démontrer cela. Là, c'est le côté statique. Donc, ils avaient un peu ce scénario. Ils ont démontré cela. Mais il faut savoir que l'ennemi opère plus sur le côté dynamique. Le côté statique, c'est pour ceux qui n'ont pas la confiance. Il y a un autre niveau, le côté dynamique. Le plan dynamique. Et c'est là que l'ennemi agit plus contre les chrétiens. Donc, en fait, c'est une situation que... Ça va au-delà de ce qu'on a pensé, ça va au-delà de ce qu'on a pu réfléchir à nous. Donc, c'est un scénario qui va toujours utiliser la porte d'avant. Donc, si c'était le vol, ça va utiliser cette porte. Mais dans ce scénario, on ne sera pas préparé. C'est un peu comme le périmètre du rectangle. Vous avez étudié, vous connaissez le périmètre du rectangle. L'angle plus large multiplié par deux. Très bien. À ce plan statique. Donc, quand on parle maintenant du plan dynamique, c'est quand on vous donne la longueur, on vous donne le périmètre, on vous demande de calculer la largeur. C'est là maintenant qu'on dit, mais comment on fait ça? Pourtant, vous connaissez la formule. Mais il y a eu un changement de situation, il y a eu un changement d'environnement. Donc, quand on parle de dynamique, la situation peut changer, les temps peuvent changer, les circonstances peuvent changer, l'humeur, la place, les émotions changent. Donc l'environnement change, c'est vrai que ça peut affecter la personne. Et c'est là où beaucoup cèdent. En fait, ce n'est pas qu'ils voulaient même, mais c'était tellement, il y a eu tellement de pression qu'ils ont cédé. En fait, ils étaient coincés. Coincé. Et la raison pour laquelle ça se passe, parce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas d'outils, ils n'étaient pas équipés. Donc souvent, quand on amène une situation sur le plan dynamique, ça peut amener de la confusion, ça peut amener de la peur, ça peut amener certaines choses qui vont faire que la personne est coincée ou la personne cède. Et ce qui s'est passé avec Pierre. Et regardons un exemple pratique, comment cela a affecté Pierre. Luc 22, 52. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Et ça montre que Pierre avait toute cette détermination, était toujours confiant. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixant sur lui les regards, dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il lui nia disant, femme, je ne le connaissais pas. Je ne le connais pas. Waouh. Donc ici, Pierre n'est plus dans son environnement. Ici, Pierre n'est plus avec les autres disciples. Ici, Pierre n'est plus avec Jésus-Christ. Ici, la situation a changé. Pourtant, sa parole est toujours là. Il est maintenant dans le camp de l'ennemi. Voilà maintenant une accusation vient contre lui. Dans son cœur, il ne veut pas. Dans son cœur, c'est difficile. Dans son cœur, il ne veut pas régner Jésus. Il ne veut pas le faire. Mais dans cette situation dynamique, regardez ce qu'il dit. Je ne le connais pas. 5 à 8. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. La peur de l'homme, ça commence à grandir. Ça commence à grandir. 5 à 9. Environ une heure plus tard, un autre insistant disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galéen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chanta, aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ici, ça montre comment les pleurs de Pierre montrent un regret. Ça montre l'état de son corps, comment il était triste, comment il a renié Jésus-Christ. Et si vous regardez même, si vous lisez cela dans le livre de Marc, Marc souligne qu'en fait, le coq a d'abord chanté la première fois et le coq a chanté la deuxième fois. Et sûrement la première fois, c'était pour rappeler Pierre. Hey, qu'il faut être fort. Que dans ce test, dans cette tentation, il faut être fort. Ici, Pierre était, il n'avait pas d'outils. Il n'était pas équipé. Il ne savait pas quoi faire face à cette situation, face à ces accusations. C'est qu'il il était coincé. Le test était difficile pour Pierre. Et Jésus-Christ le savait. Qu'il n'était pas équipé pour passer ce test. Jésus-Christ le savait. Et ce qu'il a dit, c'est quoi? Il a menti. Généralement, ceux qui sont face au mur, face aux tests ou aux tentations, ils utilisent le mensonge pour s'en échapper. Ils utilisent le mensonge pour sortir, pour ne pas être coincé, pour sortir de la situation. Ça, ce n'est pas un outil des enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas un outil des enfants de Dieu, des conquérants, des chrétiens. Et bien aimé, cela pour s'appliquer dans nos vies. Combien de fois on était face à un test, on était face à une tentation, le Seigneur nous a même rappelé. Mais tant que vous partez quelque part, en route, vous voyez un signe. Ou vous voyez un homme de Dieu qui vous parle. Ou vous voyez un texte. Ou vous êtes en train de faire quelque chose. Vous voyez un texte, un appel. Combien de fois dès qu'on était face au test de la tentation, pendant qu'on était en train de tomber, pendant que c'était difficile, Dieu nous rappelle. Dieu envoie des signes. Mais malgré cela, on tombe souvent. Malgré cela, beaucoup tombent. Pourquoi? Ils ne sont pas préparés. Ici, Pierre n'avait pas, il n'était pas équipé. Il a menti. Il n'avait pas de courage, pas de sagesse pour relater la vérité, la pression des ténèbres. La pression du système de ce monde était contre lui. Mais en lui, cette lumière qu'il avait, ce désir qu'il avait d'honorer Jésus-Christ n'a pas pu sortir. Souvent, on a ça à nous, on a ce désir, on a cette lumière, on a le royaume de Dieu qui est à nous, à être prêt à être sorti. Même les chrétiens, même ceux qui sont sauvés, même ceux qui sont nés de nouveau. C'est à eux, mais la pression du monde, c'est difficile, ça ne sort pas, c'est étouffé. C'est étouffé. Et souvent, ça ne se manifeste pas des pleurs. Donc, comment faire face à ces tests? Comment faire face à ces tentations? C'est la même chose qui s'est passée avec Rahab. Si vous vous rappelez l'histoire dans Josué 2. Josué 2. Souvent, vous allez voir qu'on veut faire quelque chose de bien, mais en cherchant à faire quelque chose de bien, les moyens qu'on utilise, en fait, on peut même utiliser les bons moyens, mais en cherchant à faire cela, quand il y a trop de pression, on succombe, on ment ou on vaut. Mais c'est disant toujours qu'en fait, c'est pour faire quelque chose de bien. Donc, c'est-à-dire, même ce que Dieu avait préparé, même ce que Dieu voulait faire à travers vous, même si vous avez les résultats de la fin, maintenant, c'est souillé. Maintenant, l'ennemi peut dire quelque chose par rapport à cela. L'ennemi peut maintenant réclamer quelque chose parce que pour atteindre ce résultat, pour atteindre cela, vous avez menti, vous avez volé, disant que c'est pour faire la volonté, pour faire le travail de Dieu. Donc, même s'il y a cette vision, même s'il y a ce plan, même s'il faut sur le chemin d'accomplir quelque chose pour le Seigneur, sur cette trajectoire, sur ce chemin, l'ennemi est là pour atteindre. Quand le test vient, quand la pression vient, c'est là que les choses commencent à être révélées. Ce qui s'est passé avec Rahab, dans Josué 2, on s'est dit ceci. Josué, fils d'un homme, fait partie secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoie dit à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre. Vous les atteindiez. Ils sont sur voie, puis on voit que Rahab, pour cacher les espions, elle était hospitalière avec les espions. C'est très bien. Ils lisaient plus tard dans le livre d'Hébreux, on dit qu'on manque la foi de Rahab. C'est très bien. Mais dans ce processus, il y a eu du mensonge. Mais souvent, on doit se demander, dans la situation dans laquelle on se trouve, qu'est-ce que Jésus aurait dû faire? Si Jésus était dans la situation de Rahab, qu'est-ce que Jésus aurait dû faire face à cette pression? Et c'est ce que Jésus devait savoir, qui devait venir. Donc Jésus devait être préparé. Rahab n'était pas préparé. C'est ça la différence. Elle n'était pas préparée. Et c'est qu'elle a dû sortir. Mais pour le temps qu'il avait, les outils qu'elle avait, c'était le mensonge. Même chose avec Pierre. Mais souvent, même la prophétie peut sortir pour nous préparer dans les situations dynamiques, dans les scénarios dynamiques. Une situation où la pression a venu, des tentations et des tests. Donc, on a reçu une prophétie. Mais malgré souvent la prophétie, beaucoup tombent toujours. Donc, on dit que demain, après-demain, dans une semaine, il y a quelque chose qui va arriver, prépare-toi. Malgré cela, la prophétie n'est pas la solution. Mais ce n'est pas juste la solution, parce que ça montre que Pierre avait la prophétie. Jésus-Christ a dit à Pierre, il a dit même le même jour. Donc, ce n'est même pas qu'il a oublié. Le même jour, la prophétie est tombée. Et Pierre est tombé. Pierre a menti. Il est tombé. Côté dynamique. Donc, ceci nous montre que il y a certaines choses qu'on ne voulait pas faire, mais à cause de la pression, ces choses, vous pouvez peut-être faire ces choses. Parce que quand la pression vient, vous êtes exposé sur le plan spirituel. Donc, quelle soit la prophétie, quelle soit la confiance, même les clés, même l'autorité, ce ne sont pas les outils, ce ne sont pas tous les outils nécessaires. Ce ne sont pas suffisants pour nous préparer à surmonter les tentations, les tests quand ça va sur le plan dynamique. On l'a bien vu. Pierre échoué par rapport à cela. Pourtant, il avait tout cela. Bien-aimés, vous voyez, lorsque, même sur le plan physique, lorsqu'on embauche quelqu'un, lorsqu'on embauche quelqu'un de position de manager, ouais, et cette personne, il y a les managers, on a cette autorité, une autorité sur ceux qui sont en bas. Et cette personne, il a déjà, il est là, il a cette position. On ne peut pas juste laisser la personne partir des meetings rapidement. Dès qu'il est embauché, on va dire non, viens, on va te montrer comment ça se passe ici. Il y a un processus de formation. Donc, on va former cette personne. On doit former cette personne. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils sont en train de dans les solutions. Donc, quand Jésus-Christ, même après que Jésus-Christ soit ressuscité des morts, quand les disciples avaient déjà les clés, Jésus-Christ leur a dit, avant d'aller opérer, avant de partir, commencer à évangéliser, à ouvrir des églises, à prêcher la parole de Dieu, avant d'entrer dans votre appel, si vous partez comme ça, vous allez échouer. Il vous fait quelque chose. Partez attendre. Partez attendre. Il vous faut quelque chose. Il vous faut un revêtement. Il vous faut un revêtement. Donc, on a besoin de la première chose du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet à faire face aux tentations et à ces épreuves. C'était indispensable pour les apôtres. Même Jésus-Christ les a dit, vous devez l'avoir, vous devez être rempli, revêtu du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, en fait, quand vous serez face aux gens, ne vous fichez pas de quoi dire, car le Saint-Esprit va vous dire cela. Disons, l'acte saint, après que Pierre se remplit du Saint-Esprit, était dans une situation similaire. On va voir le changement, on va voir ce qui s'est passé. Après qu'ils eurent, acte 5, 23, 32, après qu'ils eurent amené en prison des Saïdiens, le souverain sacrificateur, les interrogeant en ces termes, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance, le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Figurez de ses paroles, il voulait le faire mourir. Waouh! Voici pour les yeux face au souverain sacrificateur. Regardez comment il parle avec confiance. Regardez comment il ne pouvait même plus gagner Jésus-Christ. Il avait ce feu en lui. Donc, c'est le royaume de Dieu qui est en lui, ce feu en lui. À quoi le Saint-Esprit est-il capable de relâcher cela? Il dit carrément que c'est eux qui ont tué Jésus-Christ. Il était capable de relâcher cela. Donc, il nous faut le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va nous conduire à utiliser certains outils. Parce que beaucoup peuvent se dire, oh, je suis rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais pourquoi faire cette situation? Pourquoi faire ce test? Ça ne marche pas. Pourquoi faire cette tentation? Ça ne marche pas. Je suis vraiment rempli, mais pourquoi ça ne marche pas? On va passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la prière. La prière est une arme indispensable face aux tentations et face aux tests. Indispensable. S'il n'y a pas la prière, c'est comme si votre mur de protection n'est pas là. C'est comme si vous n'agissez pas sur le plan spirituel. C'est comme si vous êtes absent. C'est comme si il y a des activités qui se passent autour de vous, les complots qui se passent autour de vous. Vous ne parlez même pas. C'est comme vous êtes en cours. On parle de vous, on vous accuse, vous ne dites rien.
Quand vous priez, c'est là que les choses bougent. C'est là que les anges bougent. C'est là que les murs se lèvent autour de vous. C'est là que les plans, les murs sont anéantis. Prière, âme indispensable. Bien aimé, c'est que la tentation ne vient pas de Dieu. Jacques l'a bien dit. Tu nous mets dans les tests, mais la tentation, ça ne vient pas de Dieu. Donc, il y a des tentations dans lesquelles on peut être. On peut être en train de bagarrer. On peut être en train de faire face. Pourtant, Dieu n'a jamais prévu cela. Ce n'était même pas sur son programme. En fait, pour la prochaine étape, pour le prochain niveau, ce n'était pas prévu dans son plan. Mais à cause du fait qu'on n'a pas prié, maintenant, ils sont en train de faire face à ces tentations, ils sont en train de faire face à ces combats. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'il y a des tentations qui sont inutiles. Il y a des tentations qu'on n'était même pas censé faire face. Mais la prière nous permet d'écarter ces tentations. Matthieu 6, 13. Vous connaissez bien ce passage? Comment Jésus-Christ appelle les disciples à prier? Verset 13, ça dit ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Son traduit bien ici, ça veut dire que Seigneur, éloigne-nous de la tentation. Donc, on prie le Seigneur, qu'on demande au Seigneur qu'il nous éloigne de la tentation. Les plans que l'ennemi était en train de faire, ce qu'ils étaient en train de forger, ce qu'il était en train de préparer sur notre chemin. Le Seigneur va enlever cela. Le Seigneur va repousser cela. C'est comme si vous marchiez sur un chemin. Vous brillez, l'ennemi le sait, il y avait une route. Il vient mettre des pièges dessus. Des pièges et des pièges et des pièges et des pièges. Donc, quand vous entrez maintenant dans la dimension de la prière, vous demandez au Seigneur d'enlever cette tentation. Il vous conduit à faire des proclamations, des déclarations, des prières. C'est comme si maintenant tous ces pièges s'enlèvent. Et quand vous marchez, cette tentation n'est plus là. Cette tentation est enlevée. Oui, mais quand ça se pointe, vous pouvez résister. Vous savez, Jésus-Christ a prié pour Pierre. Car la Bible dit que Satan l'a réclamé. Satan avait réclamé Pierre. Mais Jésus-Christ a dit quelle était sa solution, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Regardez Luc 22, de 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc là, Jésus-Christ a prié. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Avant même qu'une situation ne se présente devant vous, avant même qu'une situation de tentation ne se présente devant vous, elle a été programmée, décidée dans le plan spirituel. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Spirituellement, ça a été programmé. Spirituellement, ça a été décidé. Et ce que vous voyez, cette situation, c'est juste un résultat de ce qui a été fait spirituellement. Parce que dans le plan spirituel, ça a été fait pour le résultat sur le plan physique. C'est pour ça que la solution, avant même que ça n'apparaisse sur le plan physique, vous résout. C'est-à-dire, ça se résout sur le plan spirituel. Par la prière. Donc, c'est annulé, c'est déchiré, c'est cancel. Ce qui fait que le plan physique, vous ne voyez rien. Donc, à l'ennemi, en train de planifier demain, après-demain, samedi, dimanche, octobre, novembre, décembre, et que le plan physique cherche à manifester cela, le plan physique cherche à mettre ça à jour, par la prière aussi, vous allez dans ces jours, vous allez dans ces mois, vous allez dans ces saisons, et vous annulez. Ça veut dire que physiquement, rien ne se passe. Les actions qu'ils ont programmées, les bagarres qu'ils ont programmées, les échanges qu'ils ont programmés, ah, c'est sur le plan spirituel. Ah, c'est sur le plan spirituel. Donc, ce que Satan est en train de programmer sur le plan spirituel, Jésus-Christ a dit, je m'en charge. Ne te dérange pas. Je m'en charge. Dès le parti, il a annulé. La question, c'est qu'est-ce que l'ennemi est en train de planifier dans vos vies? Quelles sont les tentations que l'ennemi est en train de préparer pour cette semaine, pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine? Quelles sont les graines des tentations qui sont en train de s'aimer? Bien-aimé, ce n'est pas face à cela que le combat commence. Ce n'est pas face à ces tentations que le combat commence. Ah, c'est une situation dans laquelle Dieu va nous faire face. Elle sera en face de nous. Mais beaucoup, la majorité, c'est le temps de les dégrainer, c'est le temps de les déraciner spirituellement par la prière. C'est le temps d'entrer, aller par le moyen de la prière sur le plan dynamique et annulé. Même quand, vous voyez, même quand l'ennemi va prendre une situation, il va essayer de changer circonstances, personnes, changer tout. Sur le plan dynamique. Quand vous entrez sur le plan de la prière, vous voyez tous ces scénarios qu'il est en train de faire, et vous annulez. Annulez. Ce qui fait que, sur le plan physique, vous passez une journée, bonne journée, comme le Père a dit, bonjour. Tout est annulé. Donc maintenant, comment faire face aux situations? J'appelle ça le couvre-feu. Un couvre-feu des tentations. Parce qu'il y a certains qui sont planifiés. Il y a certains que c'est pas juste une, mais c'est plusieurs. Il faut au niveau des semaines, des mois, de l'année. Mais comment gérer cela? Comment gérer ce qui est déjà planifié? Il faut un couvre-feu. Vous voyez, quand tu couvre-feu, c'est que personne ne passe. Vous voyez que Paul a dit prier sans cesse. Et la solution par rapport à cela, c'est il faut veiller. Il faut veiller. Donc, ce n'est pas juste une prière d'une seule fois. Ce sont les prières qui sont continues. Jacques 22, 40 dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Voici encore la solution. Ici, Jésus-Christ est encore le confirmé. Pour ne pas tomber en tentation, il faut prier. Donc, si un chrétien n'a pas une vie de prière, les combats qu'il va faire, les combats inutiles, toutes ces tentations, c'est Dieu n'a pas permis cela. Pas de vie de prière, combat inutile. Et Jésus-Christ dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Verset 46. Et il leur dit, il est encore revenu plus tard. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez. C'est la deuxième fois. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Marc dit quelque chose de différent. Marc dit ceci. Marc 14, 37, 39, ceci. Donc, ici, on parle de la veille. Donc, il faut veiller. Verset 38, c'est ceci. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et plus tard, il dit, verset 32. C'est quand Jésus a prié pour annuler. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affirme tes frères. Donc, il faut veiller et il faut prier, bien aimé. Les deux vont ensemble. Il y aura des temps que ce soit des veilles. Il y aura des temps que ce soit les prières qui seront prolongées. Parce qu'il y a des choses à détruire, il y a des choses à déraciner, il y a des choses à enlever. Donc, pour avoir accès au niveau supérieur, pour traverser les tentations, pour faire face à ces épreuves, ce sont les clés. Je vais prendre l'exemple ici d'un avion. Vous voyez qu'un avion vole. Avant même que le vol ne se passe, ils ont déjà scanné le ciel. Pas la météo. Donc, ils ont déjà vu, anticipé puis les obstacles à éviter même avant que l'avion ne décolle. Et même quand ils ont déjà décollé, ils regardent à tout temps pour se rassurer qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a pas de tempête. Et vous savez, souvent, ce qu'ils trouvent, ce sont les perturbations. On a dit qu'une perturbation, dans 5 minutes, le chauffeur se prépare. Souvent, ça secoue un peu et tout se passe bien. C'est ce qui se passe avec la vie chrétienne. Donc, quand une personne ne prie pas, c'est comme cette personne est dans un avion qui l'a décollé sans information sur le temps. Il ne sait pas s'il va pleuvoir, s'il va neiger, sur un tourbillon. C'est-à-dire, il sort de sa maison. Il ne sait rien de ce qui va se passer dehors. Ça, c'est dangereux. Vous vous imaginez? Un avion qui décolle sans regarder l'atmosphère. Tellement dangereux. C'est la même chose pour un chrétien qui sort sans prier. Sans avoir donner sa genou au Seigneur, c'est avoir observé, enlever, déraciner les plans ennemis. Il y aura tellement de combats. Et sa vie sera up-down. Demain, c'est bon. Demain, il va se poser, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout? Pourquoi ces combats? Pourquoi ces combats? Ça sera up-down, up-down, up-down. En haut, en bas, en haut, en bas. Parce qu'il n'a pas scanné. Parce qu'il n'a pas tué la prière. Et une personne maintenant qui prie, mais qui ne veille pas. C'est comme un avion, oui, qui a pris les informations sur le temps, mais qui, en plein vol, n'a plus ces informations, ne scanne pas pour voir ce qui se passe. Donc, il faut les deux. Il faut prier, il faut veiller. Et quand vous priez et veillez, maintenant qu'il y a des petites tribulations, quand vous êtes face aux situations, quelles situations se présentent, mais vous êtes équipés. Vous avez la parole. Vous savez quoi dire. Vous savez comment bouger à gauche, à droite. Vous savez comment vous positionner. Parce que Dieu ne peut pas mettre une situation sur laquelle vous ne pouvez pas réussir. Mais vous devez vous préparer. En vous préparant maintenant que vous faites cette confrontation, vous avez cette victoire. Regardez Jésus-Christ dans le désert. On était tenté de plusieurs manières. Mais il est en train de faire quoi? Il priait. Il gênait. Sensible. Son esprit était vraiment sensible. Et quand l'ennemi est venu, quand Satan est venu, qu'est-ce qu'il a dit? La troisième chose, la parole. Il faut qu'on ait la parole de Dieu. Il faut utiliser la parole. Le Saint-Esprit, quand vous avez ces paroles en vous, et bien, on peut utiliser cette parole pour vous guider. Vous montrer la direction. Vous devez savoir quoi dire. Mais si vous n'avez pas de parole, là où ce sera difficile. Il faut être rempli de paroles, rempli de la parole de Dieu. Il faut que vous soyez submergé, submergé de la parole de Dieu. Quand vous respirez même, c'est la parole qui sort. Là, quand vous êtes à une situation, à une tribulation, vous avez la victoire. Donc, c'est ça les étapes, les outils, comment faire pour être équipé. Face aux tests, face aux tentations. À travers cela, en étant victorieux dans cela, on quitte le niveau de poule, au niveau de canard, au niveau de corneau, au niveau de vautour. Parce que ces situations, le Seigneur va nous élever. Je vais terminer avec ceci. Vous avez vu Pierre, comme l'a décrit Jésus-Christ, et après, dans Actes 5, il l'a confronté. Parce que le homework maintenant, c'est qu'est-ce que Rahab aurait pu dire face au soldat qui était en face d'elle? Si Rahab avait ces outils dont on a parlé, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Quel outil du royaume de Dieu elle aurait pu utiliser sans utiliser le mensonge? Et vous donnez ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.